La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche que j'ai intitulée « Quelques gestes simples d'autrefois ». En 1997, Philippe Delerme publiait la première gorgée de bière ou autres plaisirs minuscules. Je vais vous parler, moi aussi, de ces plaisirs minuscules, ou plutôt de ces gestes simples d'autrefois, enfin de quelques-uns de ces gestes simples d'autrefois. Et nous allons le faire avec des ouvrages ou des articles de Charles Sylvestre, extraits de Pleine Terre et du Voyage rustique, de Pierre Delage, Au fil des saisons et des mois, jadis à la campagne, de Georges Marziquet, La Fauche, de Paul Lavergne, des extraits de Printemps et de L'Enfant sous les charmes, et de Jules Marouzeau, des extraits de Une enfance.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Mon père était bûcheron, revenant de l'ouvrage, de retour à la maison, avec son grand courage, buvons, trinquons.
Avec Charles Sylvestre, puis Pierre Delage, nous allons d'abord nous intéresser à l'élagage des arbres et particulièrement des chaînes de clôture. Charles Sylvestre d'abord. On commence à élaguer, dit mon compagnon, ces chaînes qui bordent mon champ des javels. Il y a bien longtemps qu'ils nous donnent provision de fagots où la flamme brûle si clair. Pour le paysan, il y a une chaleur dont le feu de branche, mais bien plus encore, une joie qui tient compagnie, qui éloigne les maléfices du vent d'ouest. Il y a 5 ans que ces arbres n'ont pas été ébranchés. Ils ne donneront jamais du bois de travail. Ce sont des arbres à feu. On les a trop torturés. Les voilà, noueux, crispés jusqu'au cœur. Celui-là, vous le voyez décapité. En cette saison sans lumière, c'est une colonne d'angoisse. Comme ils sont tristes, ces arbres. Il faudrait les ébrancher de nouveau. Dès demain, le métayer et ses garçons vont y grimper. À coup précis, d'une hache au long manche, ils feront tomber les ramilles. Pierre Delage, maintenant. Les journées de très beau temps étaient réservées à l'élagage des arbres et à l'abattage du bois en général. Quoique le bois de chauffage ne manquât pas à cette époque, la répartition était loin d'être équitable. Les métayers n'avaient pas le droit de couper de chênes ni de taillis, mais seulement quelques châtignoles mortes, des châtaigniers poussés dans les haies et qu'on élaguait comme les chênes. Ils devaient se contenter de l'élagage des chênes et de bois divers poussés dans les haies bordant Prézéter. Élaguer consistait à lui couper les branches inférieures au fur et à mesure qu'il croissait en ne laissant qu'un panache, ce qui, à la longue, lui donnait une forme allongée de 15 à 20 mètres de haut. Muni d'une hache légère et bien tranchante qu'on fixait sur son dos, on grimpait jusqu'aux plus hautes branches qu'on coupait le plus ras possible du tronc. Ces arbres mutilés à plusieurs reprises ne convenaient guère qu'à faire des traverses de chemin de fer ou des bûches. C'était un véritable travail d'acrobate, surtout quand les arbres étaient près les uns des autres, qu'ils n'avaient que des branches d'un ou de deux côtés et qu'ils étaient tordus ou bossus. Ce travail était réservé aux hommes alertes, ne craignant pas le vertige. Une fois le bois à terre, il fallait le mettre en fagot. En ce temps-là, on utilisait uniquement le lien ou art en bois. Ce lien, posé à terre, on coupait les branches de même longueur et on les mettait dessus vers leur milieu. Les belles, droites, sur le pourtour, les courtes, les tordues, dans le milieu, en ayant soin de ne pas faire d'éventail. Une fois le fagot formé, on prenait le gros bout du lien pour le passer dans l'œillet. On tirait en même temps qu'on appuyait avec le pied. On tapait même sur les branches pour qu'elles soient bien serrées. Il ne restait plus qu'à tordre le bout du lien resté libre à la hauteur de l'œillet pour éviter qu'il casse et le rabattre parallèlement aux branches. Les meilleurs liens et les plus commodes à employer se prenaient dans des rejets de châtaigniers âgés de 2 ans quand on n'en trouvait pas dans les bois abattus. C'était un véritable travail d'art qui ne s'acquérait que par une longue pratique que de confectionner des fagots maniables et bien faits.
Avec une pêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la main grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Écoutons maintenant Paul Lavergne, puis Charles Sylvestre et Pierre Delage à propos de l'acte très simple du bêchage, du binage et du sarclage. Paul Lavergne d'abord. Un peu de boue collée à ses guêtres, le père poussait dans l'allée du jardin la brouette chargée de fumier. C'était grand temps de bêcher, la terre était de sorte. Il ne restait plus dans les carrés qu'un tas de poireaux bleus à longues feuilles et des choux rabougris. Qu'est-ce qu'on va manger, mon Dieu, en attendant que toutes ces graines produisent ? Se lamentait la mère. C'était la première parole qu'elle disait en commençant une journée. Matichou bêchait avec le père, le soleil brillait sur la visière de cuir de sa casquette. Afin de reprendre haleine, il s'arrêtait un moment, le pied sur le fer de la bêche, embrassait du regard l'étendue ensoleillée, crachait dans ses doigts et repartait de plus belle, tranchant sans pitié le corps des vers qui se tordaient sur le guéret. Charles Sylvestre maintenant. Gilbert est assis près de la grange sur un banc de bois. Il prend un peu de repos. Du matin au soir, il a travaillé avec les journaliers. Je vais m'asseoir à côté de lui. Il me donne des nouvelles de la terre. Il s'écrie qu'il faudrait être partout à la fois en cette saison. Il y a des binages à faire dans les haricots et les betteraves. Il serait urgent de buter les topinambours et les pommes de terre, et plus encore, de désherber le froment. La mauvaise herbe pousse avec une rapidité effrayante. Il s'agit de l'arracher avant qu'elle porte ses graines qui empoisonneraient le terrain. Pierre Delage, enfin. C'est au début de juin que commençaient les binages. Les petits propriétaires, petits fermiers, bordiers, binaient entièrement à la main avec la houe. Ceux qui avaient des vaches et un arrière passaient entre chaque ligne de plantes à sarcler. Ils opéraient de la même façon que pour labourer en billon, mais le milieu, c'est-à-dire le rang de pommes de terre par exemple, restait. On l'ameublissait à la main et on réapprochait, en le nivelant un peu, la terre qui avait été dressée en crête entre les lignes. 3 semaines, 1 mois plus tard, ces plantes étaient butées, soit avec la houe, soit avec le butoir. Ce travail avait pour objet de détruire les mauvaises herbes et de reformer les billons, ce qui facilitait l'arrachage des pommes de terre et des topinambours notamment.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Creuser les rigoles des prés, c'est un travail traditionnel des paysans pendant l'hiver. C'est ce que nous explique Pierre Delage. Quand il ne pleuvait pas ou ne neigeait pas, tous les hommes et toutes les femmes qui n'étaient pas indispensables à la maison allaient travailler au dehors. L'entretien des rigoles, des levades, se faisait à partir de décembre. On distinguait les rigoles de drainage qui conduisaient l'eau recueillie dans les endroits marécageux vers le milieu de la dépression, des prés généralement en pente, et les rigoles d'irrigation qui partaient du fond de la dépression, bien souvent sinueuse, avec un dénivellement juste suffisant pour que l'eau coule et aille se déverser jusque sur les coteaux arides. Ces rigoles se divisaient parfois en de multiples bras. On peut dire qu'elles dessinaient des courbes de niveau. Les outils nécessaires par ordre d'usage étaient le coupe-gazon ou le taille-bras, la houe et la fourche, plus un cordeau pour ceux qui voulaient effectuer un travail plus raffiné, plus esthétique. Les deux bords des rigoles étaient tranchés nets, avec élargissement toujours du côté du haut, le cas échéant. Ensuite, opérant à reculons, on passait la houe horizontalement sur les parties de gazon qui étaient sorties sur le bord de la rigole et étalées avec la fourche dont les trous, les petites dépressions, puis aplanies avec le dos de la houe faisant office de demoiselle. Il arrivait souvent que la même rigole d'irrigation traversait un pré appartenant à plusieurs propriétaires. Le curage, le nettoyage devenait alors collectif. Le propriétaire du pré traversé par la rigole la taillait et celui ou ceux se trouvant en aval la curait.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Un autre acte simple et traditionnel consiste à affûter la faux. Écoutons à ce sujet Charles Sylvestre, Georges Marziquet et Pierre Delage. Charles Sylvestre d'abord. Parfois, on entend le bruit d'une faux qu'un homme aiguise en rythme de marche. La pierre cesse de bruire au fil de l'acier. Un silence immense revient plein de murmures. Georges Marziquet maintenant. Avant de se servir de la faux, il faut la battre avec un marteau sur une pièce d'acier que l'on plante en terre. Pendant la fauchaison, l'aiguiser beaucoup plus souvent avec une pierre à aiguiser qui se met dans le coffin accroché à la ceinture du faucheur, souvent une ficelle de lieuse. Et enfin Pierre Delage, pour donner du tranchant à la faux, on se servait de deux outils inséparables, le marteau et l'enclume. Cette dernière plutôt désignée sous le nom de forge. La forge était pointue pour entrer dans un sol dur, chemin ou sol de la grange, et munie de croisillons en forme de volute pour l'empêcher de trop s'enfoncer. Une fois la forge fixée en terre, la faux était placée dessus, maintenue d'une main qui en même temps la faisait glisser tandis que de l'autre main, on frappait à petits coups sur l'extrême rebord pour l'étendre et l'amincir, ce qui donnait la battue. C'est de ce travail, plus ou moins bien réussi, que dépendait le bon fonctionnement de la faux et la somme d'efforts que le faucheur devait fournir. Écoutons maintenant Charles Sylvestre qui vient de rencontrer Léonard, le forgeron, qui va lui aiguiser une hache. Ayant fini de limer, il me dit « Venez donc m'aider à aiguiser cette hache. Vous tournerez la manivelle. Vous tournerez la manivelle de la meule. » L'apprenti peut se reposer. Au jour d'aujourd'hui, faut pas trop fatiguer les apprentis, ils prendraient les pâles couleurs. Il plaça le fer de la hache sur la pierre tandis que je tournais la manivelle. Peu à peu, il appuyait si roide que j'avais beau donner toute ma force, il m'immobilisait par la pression de son poing sur le talon de l'outil. Bientôt, il se mit à rire aux éclats, heureux de m'avoir joué un bon tour. Il tendit les bras. J'ai les tendons comme du fer. Autrefois, je faisais toucher à terre le nez d'une vache en la prenant par les cornes. C'est vrai. Il s'appliqua à lisser l'acier, à lui donner du fil. L'ayant éprouvé en le touchant de son pouce, il dit « Avec ça, je pourrais faire la barbe à quelques chaînes de buisson. Ça viendra tout seul. » Il mouilla la hache et l'essuya et il la posa sur une étagère.
La terre est basse et je vois le soleil si haut que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau. Mais la moisson va se lever pour nous demain et nous l'embrasserons à pleine main. Terre est basse et là-haut le soleil si chaud que je voudrais m'endormir au bord d'un ruisseau. Mais le fruit mûr faisant ployer ses branches un jour se penchera vers toi jusqu'à tes lèvres, ô mon amour.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans une émission précédente, nous avions fait appel à Paul Lavergne pour traiter du glanage. Voici maintenant le vanage, et c'est un extrait de L'enfant sous les charmes. « Le temps des glanes est passé, mamie, » dit alors Miette, avec un accent de regret. Maintenant, elle attendait un jour de vent pour battre son blé et le vanner. Chaque soir, elle surveillait le coucher du soleil, non point pour en admirer la beauté, mais pour savoir si les nuages seraient rouges et s'il y aurait du vent le lendemain. Un soir, l'horizon se trouva à la convenance de Miette. « Je pourrais battre demain, » dit-elle. Encore Un joli travail, Douli. Le lendemain, elle n'ouvrit point le poulailler. La volaille me gênerait. Elle peut bien piauler une demi-journée. Le temps se leva comme l'avait souhaité Miette. Un ciel bleu, tout frisé de moutons. Et le vent bougeait dans la cime des chênes. Il n'y en a pas trop, mais juste ce qu'il faut. Trop de vent entraînerait le grain. Juste ce filet d'air pour souffler dans la balle. Elle étendit un drap sur l'herbe du chemin, disposa au milieu de la planche à laver et alentour toutes les glanes. Elle prit une poignée d'épis qu'elle frotta sur les dents de la planche. Les grains roulèrent, pareils à de lourds insectes fauves. « Ça commence à couler, grand-mère !» cria Doudy d'une voix triomphale. « Eh oui, ma fille, un joli ruisseau, n'est-ce pas ?» Grand-mère était heureuse. Elle frottait les poignées d'épis et regardait bien s'il ne restait pas de grains avant de rejeter la paille. Mais il ne restait jamais rien que les enveloppes vides et elle riait. « Allons, c'est un peu fatigant, mais ça bat mieux qu'un fléau. » Miette frotta longtemps avec des gestes de laveuse. Autour d'elle, le tas de froment s'amoncelait et les derniers grains battus rebondissaient avec un bruit d'averse. « Tu entends, Doudy ? La jolie grêle ?» Doudy était accroupi contre le tas et jouait à faire glisser le blé entre ses doigts. « Il est chaud, mémé, et regarde comme sa peau tire !» Elle se rendait compte que le grain était plein à craquer. « Oui, Doudy, c'est une belle récolte !» Miette en était plus fière que Madame Mativa ne l'était de la sienne qui s'élevait à des quantités de sacs. « Attention, Doudy, je vanne. C'est encore plus beau. Tu vas voir. » Miette prit la corbeille où l'on installait les poules couveuses, l'emplit de blé mêlé de balles, un second drap, absolument net, retenu aux angles par quatre pierres, attendait le précieux dépôt. Miette se tint debout face au vent, la corbeille inclinée. Rien ne bougeait que ce trésor dans les bras levés de Miette. « Allons, souffle, vent, souffle !» dit-elle. Comme s'il n'attendait que cet ordre, le vent accourut de quelque endroit lointain où il s'était endormi. Il sautait de chaîne en chaîne, en remuant les feuilles. « Allons, souffle, vent, fais mon ouvrage. Allons, souffle, vent, souffle, emporte la balle, laisse le blé. Emporte la balle, vent, laisse-nous le blé. » Le vent obéissait. À petits souffles qu'il s'appliquait à pousser bien léger, il sautait dans la corbeille. Et là-dedans, sans se tromper, il triait. La balle, vide de sa graine, filait comme une traînée d'étincelles du côté de Riosec, et le froment, tendu comme un rayon de soleil, descendait goutte à goutte sur le drap. C'était une chose admirable. Lorsque toute la récolte fut vannée, il y eut un beau tas de grains que Doudy ne se lassait pas de soupeser entre ses doigts.
On fait un festin de campagne. Nous avons invité les voisins, les parents de nos femmes. Et moi, chantais, tout le monde criait. Hip, bonbon, du fun, y en avait pour tout le monde.
Pour faire un bon festin de campagne, comme nous dit cette chanson, souvent en basse marche, on sert du lapin. Mais ces lapins, il faut les élever, il faut les tuer, il faut les dépouiller. Écoutons Charles Sylvestre, puis Jules Marouzeau. Gentou élevait jadis des bœufs et des vaches. Il soigne à présent des lapins. Il leur porte des branches de houx quand ils ont le gros ventre et ils perdent leur obésité. Il admire qu'une feuille de chou soit découpée et dentelée par ces bestioles au nez froncé, remuant aux longues oreilles à bascule. Le dimanche, il choisit le plus dodu et lui fait le coup du père François. Il le suspend à un clou par les pattes sous le hangar. Il retourne sa peau très proprement comme un gant. Il sait enlever au foie du pouce et de l'index la vésicule de fiel sans se servir du couteau. Sa femme fait cuire la chair blanche dans du gros vin rouge, agrémenté d'un oignon, d'une rondelle de carotte et d'une feuille de laurier sauce. Jules Marouzeau, maintenant, notre voisin de Fleurant en Creuse. Au fond du jardin, j'ai mes lapins. Véritable entreprise d'élevage. j'avais fait pour eux un bâti contre le tronc d'un vieux noyer, avec une porte solide contre les chiens rôdeurs, et à l'intérieur des cloisons pour séparer mâles et femelles, loger les mères qui ont des petits et les couples qui doivent rapporter. Il fallait reconnaître les sexes. Pour cela, je faisais venir mon frère. Je voyais bien où il regardait, mais je n'osais lui demander à quel signe il se renseignait. Il fallait savoir quand une mère était pleine pour lui ménager un coin sec où elle ferait son nid de bourre. Il fallait connaître les bonnes herbes et les mauvaises. Il fallait savoir attraper les bons à tuer. Il fallait même les mettre à mort. Ma mère tenait la victime entre ses genoux. J'introduisais entre les coupantes incisives un petit entonnoir de métal et j'y versais un verre d'eau de vie. Juste la mesure conservée pour deux sous chaque matin au père Bessounet. Quand mon père était là, on épargnait l'eau de vie. Il prenait l'animal par les pattes de derrière et visant entre les deux oreilles l'assommait d'un coup de poing qui faisait mon horreur et mon admiration. Puis, ma mère, avec son couteau de 5 sous toujours suspendu au cordon de son tablier, écorchait la bête toute chaude que je tenais par les pattes. Deux incisions par-ci, deux par-là, et la peau se retournait comme un gant, découvrant deux horribles yeux ronds et la panse grosse de nourriture accumulée. « Ah, tu vois comme il est gras !» disait ma mère. « Ah, tu ne l'as pas trop mal soigné !» Et je renvoyais en pensée les brassées de sennesson que pendant des mois j'avais jetées en pâture à tous ces petits museaux mécaniques.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Aga Joubert, c'est une invitée de marque que l'on va recevoir et on décide de lui servir des pigeons pour le repas. Écoutons Paul Lavergne. Et Rosalie, plume les pigeons. Ils étaient chauds. Rosalie commença par baiser avec tendresse leur fine tête bleue et flatta le plumage gris d'acier avant d'arracher les plumes du bout des doigts comme on effeuille une marguerite. La femelle, dont son plumage bleu passé, avec ses formes fines, avait quelque chose de plus touchant que le mâle. Son col flexible pendait. Le mâle semblait s'essayer à la parade. Si c'est pas triste de tuer des bêtes comme ça, les pauvres petites pattes étaient crispées par la dernière souffrance. Oh, ce travail qu'on me fait faire! Elle peut pas manger autre chose, la tante? Le pigeon inclinait son col dans la main de Rosalie avec des effets de gorge qui semblaient vivants, mais les paupières demeuraient closes. « Que je me dépêche !» disait Rosalie. « Que cette horreur soit finie ! C'est épouvantable de tuer des oiseaux !» Les pigeons plumés, avec leurs ailes trop grandes, leurs petits corps douillets, avaient l'air de monstres, pareils à ces bêtes d'avant le déluge que l'on aperçoit en feuilletant les dictionnaires. « C'est ça ?» « Mes beaux pigeons !» dit Rosalie stupéfaite. « La tante aura du courage de manger ça. »« Ah oui, vraiment, il faut que ce soit une femme extraordinaire. »« Ah, moi, je ne voudrais jamais y toucher. » Elle éprouvait une grande déception. Voilà ce qu'ils étaient sous leurs plumes. Des horreurs.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Traditionnellement, on accompagne les pigeons rôtis de petits pois, mais ici, avec Paul Lavergne, dans l'enfant sous les charmes, il est question de haricots. Et ces haricots, il faut les écosser. Pour nous distraire, pendant notre après-midi de dimanche, propose grand-mère, nous écosserons les haricots. Ils s'installent tous les trois à l'ombre du cerisier, grand-père Philippe, Miette et Doudy. Les cosses demi-sèches des haricots emplissent un panier. Elles sont douces comme le beurre et le soleil les a mouchetées de tons bleus ou roses. Doudy choisit les plus belles.
Je veux la belle gousse rouge.
Les haricots seront rouges aussi, dit Mémé. Doudy entr'ouvre le souple berceau, les grains d'un rose passé absolument exquis et frais au doigt comme l'eau du ruisseau. Ils dorment, chacun à sa place. Doudy les garde dans sa paume. Elle ne peut croire que ce soit de vulgaires haricots.
Ils ont un œil, mémé, ou une toute petite porte, je ne sais pas.
C'est un œil, déclare Miette, et c'est en même temps une porte.
Alors, raconte,
demande Doudy déjà haletante.
Eh bien, au printemps prochain, le germe sortira par cette petite porte.
Du germe ?
Doudy frissonne. Est-ce quelqu'un de très méchant, le germe ? Ou bien est-ce un petit bonhomme semblable au nain des groseilles qui porte la clé des champs pendue à son cou, demande l'enfant.
Tu es sotte, Doudy, répond Miette. Ce n'est que le pied d'un autre petit haricot.
Et après, mémé, où va-t-il quand il a sorti ses pieds ?
Oh, il ne voyage guère. Il prend racine là où il se trouve.
Doudy est un peu déçu.
Bah, ce n'est déjà pas si mal, continue Miette.
Il passe l'été à grandir, à mettre des fleurs, qui se changent peu à peu en gousses gonflées de graines. Voilà ce qu'il fait de sa vie, le haricot que tu tiens dans ta main. Maintenant, ils écossent tous les trois sans parler. Philippe et Miette ne choisissent pas les gousses. Ils ont autant de plaisir à ouvrir les vertes ou les bleues. Mais Doudy est attiré invinciblement par les roses. Et les graines vivement coloriées lui procurent un plaisir qu'elle n'a pas de raison de dissimuler.
Mouche, mouche, mamie, ma mouche volait autour de moi. À petits coups d'ailes de galipette et d'entrechat. Approche un peu, ne sois pas farouche. Je suis en été quand je te vois. Pose, pose, mamie, ma mouche, pose-toi sur mon bras. Je veux bien être ton coche et mon cœur bat pour toi. Fais-moi un petit bisou sur la bouche. Zigzag à touche-touche plus près de moi.
Dans cette chanson, il est question de mouche. Nous allons terminer avec ce geste simple connu de vous tous, j'en suis certain. Il s'agit d'installer, d'attacher au plafond du papier tue-mouche. Et c'est un texte de Paul Lavergne. Les jours s'écoulent, un vide désolant. Les mouches seules s'intéressent à des folies comme de tourner en rond sous l'échelle au pin ou la gerbe d'oignon qui pend à une poutre. Elles dansent d'invraisemblables quadrilles. Elles sont 8, 12, des poignées à se croiser, se mêler en des rythmes que l'on ne peut saisir au son de leur musique agaçante. Il y en a qui filent comme des chevaux de bois. Elles semblent entraînées par le déplacement d'air de leur compagne et volent sur la piste ouverte. D'autres se lanchent comme des pierres dans le vide et soudain rebondissent sans qu'on ait le temps de voir leurs ailes. Tout à coup, elles les ouvrent et planent en criant quelque chose de véhément qui agite leurs pattes, leurs têtes, leurs mandibules. La cuisine est leur cour de récréation, leur carrousel. On en voit qui processionnent sur le bois ciré de la table. On en voit des nuées dans la mets, en train de pomper le ragoût, de boire le lait, de goûter au fromage. Il y en a qui se collent au miroir, fascinés par leur propre image. D'autres se chauffent aux vitres, explorent sans arrêt cette surface dure qui donne, par sa clarté, l'illusion de l'espace. Il en est quelques-unes qui se jettent sur les autres en plein vol, s'y accrochent comme un coq à ses poules. Cela fait un paquet désemparé qui se cogne n'importe où, tombe au hasard. Rosalie s'amuse à cueillir des mouches. Sa main glisse le long de la table et se referme. Les insectes, dans cette prison, lui chatouillent la paume, se faufilent entre ses doigts, poussant de toutes leurs forces pour s'échapper. Quelques-uns crient peut-être au secours. Rosalie soulève le pouce et par cette ouverture, les bêtes se ruent dans la lumière. La mère déteste les mouches. Elle attache au plafond une sorte de papier gluant. Les mouches, curieuses, y restent collées par le nez, par l'aile, par les pattes. Elles se débattent, n'arrivent pas à se délivrer, ne font que s'engluer davantage. Elles sont à agoniser sur ce papier et leur souffrance n'arrête même pas la curiosité des autres.
En face à la fontaine, ziguezon, cotillon, rigodon, toulouré. Pour remplir mon cruchon, la ziguezon, le cotillon, rigodon, toulouré. Foulez l'étoffe, cling, 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 lève en haut.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche intitulée
gestes simples d'autrefois. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Charles Sylvestre, de Pierre Delage, de Georges Marziquet, de Paul Lavergne et de Jules Marouzeau. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux groupes Maluzerne, Mélusine et Tête Raide, La Bomboche, la famille Souzy, Isabeau et Mélisandre, les frères Jacques et aux chanteurs Alain Schneider et Léo Marjan. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Tirez, tirez, dit-elle, le cigazon, cotillon, rigodon, toulouré. Après ça, nous verrons la digazon, le cotillon, rigodon, toulouré. Foulez les tempêtes, cling, 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 le vent, oh, 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 via la, ha, ha. Foulez les tempêtes, cling, le cigazon,
tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.